La soirée du vendredi racontait l'après-réception, avec une scène qui marqua car elle devait faire un triomphe chez les jeunes. Elle se passe dans le coupé qui ramène la duchesse, le duc et le héros. Parce que les souliers rouges de la duchesse risquent de toucher ceux du héros. Elle imagine cette réflexion. « Madame, dites-moi tout de suite que vous m'aimez, mais ne me marchez pas sur les pieds comme cela. » Cela avait une autre distinction que la sempiternelle devinette que se pose une dame sur ce que cache une enflure du haut d'un pantalon d'homme. Est-ce un pistolet, une banane, ou veut-il me signifier que je l'attire? Rentré chez lui, le couple part pour sa redoute. Le duc ne voulant pas entendre l'annonce de la mort de Monsieur de Semont, mais non, on exagère. Le héros regagne son domicile pour retrouver Françoise et recevoir Albertine. La séance du samedi après-midi s'annonçait aisée. Albertine donne au héros les baisers qu'il réclame. Tous deux boivent de l'orangeade pressée. Elle partit, lui écrit à Gilberte. Bref, le train-train proustien. Soudain, il fallait que cela arrivât, le drapeau de la révolte fut brandi. Un commando balaya le service d'ordre, bondit sur scène. Tandis que se préparaient Urvari, Bronca et Lazzi, Fabrice Pelletier, d'un discret geste du bras, incita à laisser ses invités autoproclamés à s'exprimer. Nous sommes les Unproustides, sur le modèle des Unplugged. Nous en avons ras-le-bol de cet unanimisme branché. Nous parlons, au nom des lecteurs de Guy Descartes, des cinéphiles fidèles à Max Pekka et Philippe Clerc, par où t'es entré, on t'a pas vu sortir, tais-toi quand tu parles, des amateurs de peinture fraîche, des clowns de Bernard Buffet, de préférence en reproduction à 20 euros sur Internet. Et suprême référence de tous ceux qui savent entonner après Patricia Carly, demain tu te maries. Arrête, ne me touche pas. L'interruption aurait pu rester comique. Si, pour joindre le geste à la parole, Amanda Lear, qui accompagnait cette débranchée, n'avait pas lancé un livre de Roger Perfit, trouble chantre de la pédophilie dans les amitiés particulières, en direction de Fabrice. L'artiste chantait faux, mais elle visa juste et le visage du récitant fut atteint. Sonné, Fabrice vacilla, tenta de se redresser et tomba lourdement. Les pompiers toujours présents dans une salle de spectacle l'évacuèrent en coulisses, où il reprit ses esprits, mais lentement, ce qui interdit une reprise du show. Le commando s'était carapaté, et pour une fois, Miss Lear fuyait les caméras. Et dans la salle, le brouhaha s'installa. Il ne s'était pas passé une minute, mais pour la première fois dans son aventure, Fabrice déclarait forfait. Il avait échappé au trou de mémoire, à la défaillance, aux agresseurs. Un écrit le privait de mots, un bouquin à scandale le faisait taire. À demi conscient, il se lamentait de cette désolante première. Les cadreurs de Kappa qui filmaient sans défaillance, comme prévu, les prestations intégrales, qui en assurait, comme on dit dans le métier, la captation, ne faillirent pas. C'est dans la boîte, ricana le réalisateur. Mais ce n'était pas fini. Un prodige eut alors lieu. Un autre commando, improvisé lui, se rua sur les planches. C'étaient des spectateurs, ne se connaissant pas, mais déterminés à ne pas briser le fil du spectacle. Une jeune fille en chemisette ouvrit son folio du roman et renoua le public au texte en enchaînant là où Fabrice s'était tu. un quadragénaire en blouson de daim prit la suite, remplacé par une vieille dame coiffée d'un bibi d'un autre âge, follement applaudie, à laquelle succéda un adolescent qui arborait un Marcel floqué des mots « Proust ne me quitte pas ». L'affaire fut rapportée par la presse et les chaînes en firent leur chou gras, d'abord dans les JT, ensuite dans tous les zappings. Fabrice, après l'autorisation d'un médecin proustien, revint sur scène, laissa le jeune terminer sa page et poursuivit, mais sans l'aide du texte, non pas comme si de rien n'était, mais en laissant le temps au public de remercier le groupe qui avait encore quelques volontaires disponibles, en l'applaudissant. Les mots tournaient autour de l'affaire qui tourne toutes les têtes, puis du salon d'Odette qui devient un must mondain, tandis que Gilberte, sa fille, hérite, sa aide, de près de 80 millions d'un oncle de Swann.